Qui a fait exploser ce barrage? À qui profite ce crime de guerre? Et faut-il s'inquiéter pour la centrale nucléaire de Zaporijjia qui est en amont? Elle a besoin de l'eau du barrage pour approfondir ses réacteurs. Je vais poser la question dans un instant à tous nos invités, nos experts ce soir. Mais d'abord, je vous le disais, BFM TV est la première chaîne à être arrivée sur place ce soir dans la région de Kherson. On vous retrouve sur place, Nicolas Coadou, en direct. Merci d'être avec nous, Nicolas. Que voyez-vous, qu'avez-vous vu en arrivant à Kherson ce soir?
Bonsoir Maxime, eh bien je vais vous le montrer. Ce qu'on voit, c'est des quantités d'eau absolument affolantes. Kherson, c'est une grande ville du sud du pays qui est située en rive du Dniepr, ce grand fleuve qui traverse l'Ukraine. Eh bien le fleuve est monté de 3,24 m. Eh bien regardez mes pieds, nous sommes à une soixantaine de mètres du Dniepr et pourtant l'eau continue à monter. Elle a envahi toutes les rues de cette ville et pénètre même dans certaines habitations, à tel point, vous l'avez dit, que cette ville de Kherson doit être évacuée, du moins en grande partie. Certaines personnes au début de la journée pensaient que ça n'allait pas monter très vite, qu'ils ne allaient pas s'évacuer. Eh bien, ils ont très rapidement changé d'avis en voyant la montée très rapide des eaux. Ce sont d'ores et déjà 1200 personnes qui sont évacuées rien que sur cette ville de Kherson. Cette catastrophe, elle était redoutée. Elle a fini par arriver, oui, parce que ce sont au total près d'une vingtaine de localités qui sont totalement inondées par cette inondation, par cette eau qui continue de se déverser de ce barrage fracturé. Et ça devrait continuer puisque le pic de cette inondation devrait avoir lieu demain aux alentours de midi. Alors la question politique maintenant qui se pose, c'est qui est responsable de ces frappes sur ce barrage? Comme très souvent dans cette guerre, Russie et Ukraine se renvoient mutuellement la responsabilité. Selon Vladimir Poutine, c'est l'Ukraine qui a bombardé cette centrale afin de couper l'approvisionnement en eau de la Crimée. Et selon l'Ukraine, bien sûr, c'est dû à des explosifs posés par Moscou, ce qui aurait pour conséquence directe de ralentir la contre-offensive dont on entend parler depuis maintenant plusieurs semaines. En tout cas, cette question n'est pas tranchée, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau continue ici de monter, des évacuations vont se poursuivre dans les prochains jours. Il y a fort à parier que ça pourrait ralentir la contre-offensive tant annoncée par Kiev et qui devrait avoir lieu dans les prochains jours.
Nicolas, on reste avec vous un instant encore en direct de Kherson. Deux questions. D'abord, que vous ont dit ce soir les habitants que vous avez peut-être croisés en arrivant à Kherson? Je sais que vous venez d'arriver, donc peut-être que c'est difficile pour vous, mais qu'est-ce que vous ressentez en termes d'atmosphère? Et effectivement, quelle est la suite pour ces habitants? Est-ce que tout le monde, partout, doit évacuer? Qu'est-ce qui est prévu par les autorités ukrainiennes?
Alors, nous venons tout juste d'arriver sur Kherson, donc nous n'avons malheureusement pas encore eu le temps de discuter avec des habitants, mais on peut les voir. D'ailleurs, vous ne les verrez, voyez probablement pas sur ces images de Gabriel Orion qui m'accompagne, mais les habitants surveillent malgré l'heure tardive. Ici, il est près de minuit ici en Ukraine, surveillent cette eau qui monte. Il suffit d'ailleurs de la regarder pendant deux minutes, on la voit monter à vue d'œil. On peut lire l'inquiétude sur le visage des habitants, mais nous n'avons pas encore pu nous entretenir avec eux. Ces évacuations, elles ne sont pas obligatoires, elles sont simplement fortement recommandées par les autorités qui ont donc demandé à énormément de personnes d'évacuer. Mais comme vous l'avez dit, il y a au total plus de 40 000 personnes qui sont potentiellement touchées par ces inondations. Donc ça fait beaucoup de monde à évacuer. Alors certaines personnes partent par le train, mais il n'y en a pas énormément. Alors les autorités régionales de la région de Kherson ont rajouté des trains afin de proposer aux gens de pouvoir partir. Mais vous savez, cette ville de Kherson, les habitants qui restent ici, c'est des gens qui ne veulent pas partir. Cette ville, elle a été prise par les Russes, elle a été libérée depuis sa libération en septembre dernier. Elle est bombardée quasiment quotidiennement par les Russes qui finalement se situent de l'autre côté du Dniepr, à environ un kilomètre de là où nous nous trouvons avec Gabriel Orion. Donc ceux qui restent ici, ceux qui ne sont pas encore partis suite à cette inondation, c'est qu'ils veulent coûte que coûte rester dans leur domicile.
Encore une question, Nicolas. Où se trouve précisément la ligne de front, les combats? Où se trouvent-ils? Vous venez de placer, si je puis dire, sur la carte les Russes, mais où se trouvent les combats en ce moment? À quelle distance de là où vous vous trouvez?
Alors, les combats ici, la ville de Kherson est ciblée très régulièrement par l'artillerie. Pour tout vous dire, regardez cette image de Gabriel Orion. Il y a cette inondation juste derrière, à environ 70 mètres. Il y a le Dniepr, ce fleuve extrêmement large. À cet endroit-là, il fait environ 200 ou 300 mètres de largeur. Juste derrière, il y a des marécages et donc les positions des Russes. C'est bien pour cela qu'il y a des tirs d'artillerie absolument constants des deux côtés. Les combats, réellement, ils se situent un petit peu plus au nord, dans la région de Zaporijjia, et également dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Ici, il y a peu de positions militaires ukrainiennes, simplement des tirs, oui, des Russes qui pilonnent la ville de manière extrêmement régulière, mais forcé de constater qu'avec cette inondation, ce sera forcément de plus en plus compliqué de poser des positions militaires ici. C'est bien pour cela que je vous expliquais que cette contre-offensive, si du moins il était prévu qu'elle soit menée dans cette région-là de l'Ukraine, devrait être renforcée ou du moins légèrement compromise. C'est, selon le commandement militaire ukrainien, l'objectif des Russes en ayant, c'est ce qu'ils expliquent, détruit ce barrage.
Merci à vous Nicolas Coadou, Gabriel Orion et Andriy Ryabeka, l'équipe de BFM TV qui est donc arrivée sur place ce soir à Kherson. On essaiera de vous retrouver, si vous le pouvez, un peu plus tard dans cette soirée. Je voulais saluer nos invités, nos experts ce soir. Bonsoir Ulysse Gosset, merci d'être là. Ulysse, bonsoir Jean-Luc Lefebvre, merci également à vous d'être là, ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de guerre. Je salue Paul Gogo, bonsoir Paul, merci d'être là, journaliste et correspondant à Moscou, Guillaume Ancel. Bonsoir, ancien officier et écrivain, auteur du blog Ne pas subir, et à distance, Sergueï Jernov est avec nous. Bonsoir Sergueï, merci d'être là également. Ancien officier d'enseignement du KGB, auteur de L'Escalade, livre publié aux éditions Albin Michel. On va préciser une chose, Ulysse Gosset. À notre connaissance, pour l'instant, pas de victimes, mais la Maison-Blanche dit qu'il pourrait, qu'il devrait y avoir énormément de victimes.
Ce soir, on dit déjà à Kiev qu'il y a des morts. On ne précise pas le nombre, mais il est clair que ces millions de tonnes d'eau qui se sont déversées au-delà du barrage ont englouti des villages et fait des victimes. On ignore évidemment le nombre précis, mais il y aura effectivement des victimes. Et surtout, il y a des menaces pour des centaines de milliers d'habitants de cette zone. Il y a plusieurs dizaines de villages qui risquent d'être submergés. On a vu Kherson, notre envoyé spécial, les pieds dans l'eau. Kherson, le centre-ville, est un peu sur un monticule en élévation, donc il n'est pas menacé, mais autour, il y a des quartiers de Kherson qui risquent d'être submergés.
Et on voit encore cette carte et l'eau qui envahit comme ça sur notre carte.
Voilà, et donc on est à la veille, effectivement, d'une destruction potentielle de dizaines de milliers d'hectares, de centaines de villages et potentiellement des dizaines de milliers de victimes. On n'en est pas là, mais on voit bien que ce soir, ce qui est important, c'est que la guerre change de dimension. Cette
Pourquoi
explosion, ce sabotage du barrage, quel qu'en soit l'auteur, et c'est probablement les Russes, mais on ne le sait pas encore. Les Américains disent qu'ils ont des preuves que ce sont les Russes. On verra les preuves qu'ils nous montrent. Mais en tout cas, ce soir, la guerre change de dimension. Cette attaque, ce sabotage bouleverse les plans ukrainiens et très certainement retarde ou compromet, en tout cas, le plan initial de la contre-offensive ukrainienne. Car cette région inondée, effectivement, rend impossible dans cette région-là une contre-offensive. Ça mobilise tout le système ukrainien, les militaires, les policiers. Enfin bref, il y a eu un conseil de sécurité aujourd'hui à Kiev qui dit bien la gravité de la situation. C'est une très mauvaise nouvelle à court terme pour l'Ukraine. À moyen terme, c'est pas bon non plus pour les Russes parce que la Crimée est approvisionnée à 85% en eau potable. Donc ça va pénaliser la Russie, la Crimée en particulier. Ça pénalise d'ores et déjà l'Ukraine. On peut dire ce soir qu'après avoir pratiqué la politique de la terre brûlée, bombardant, éliminant, détruisant les villes, Poutine pratique la politique de la terre noyée. Et effectivement, ça rappelle 1941, le 28 août 41, Staline qui n'hésite pas à faire sauter un barrage pour retarder l'invasion nazie. Et là, on est quasiment dans un scénario parallèle. Si effectivement c'est Poutine qui a donné l'ordre, et c'est probable, eh bien, Staline comme Poutine, 1941-2023.
Évidemment, on va se poser la question de qui. Qui est derrière ça? Mais Guillaume Ancel, il y a aussi la question avant du comment. Comment est-ce qu'on peut faire exploser un barrage comme celui-là? Un monstre de béton, de terre, d'acier comme celui-là? On a quelques indices ce soir. Quel est, vous, votre sentiment là-dessus?
Alors, d'abord, je pense que ce n'est pas une surprise. Parce que depuis octobre dernier, les Ukrainiens et certains renseignements confirmés montraient que les Russes avaient disposé des charges explosives extrêmement importantes à l'intérieur du barrage. Attention, pour détruire un barrage de cible, il faut plusieurs tonnes d'explosifs.
Oui,
donc
oui.
C'est pas un commando.
C'est une grosse
qui va venir
opération.
Tout seul déposer un sac à dos. D'accord, on parle de tonnes d'explosifs. D'autre part, on voit très bien sur les images, une fois que le barrage a été détruit, qu'il n'y a aucun impact sur les côtés du barrage. C'est-à-dire que ça sort complètement l'hypothèse avancée par les Russes, bien sûr, d'une attaque ukrainienne contre ce barrage. De toute façon, C'est une zone qui est très surveillée. C'est pour ça que les Américains n'auront pas de difficulté à montrer ce qui s'est passé sur place, parce que ce qu'ils vont sans doute dévoiler assez rapidement, ce sont des images de leur couverture satellite ou de drone qui montrera l'explosion. On verra une explosion interne-externe, c'est-à-dire des charges qui étaient à l'intérieur du barrage. Et cette action russe, elle avait été scénarisé en octobre dernier, il y a un très bon article du Monde qui l'explique, où quand les Ukrainiens avaient repris la région de Kherson, les Russes avaient envisagé de stopper leur avancée au-delà du Dniepr en inondant cette partie-là. Et ils sont arrêtés parce que les Ukrainiens se sont arrêtés au Dniepr. Par contre, Ulysse a parfaitement raison sur le fait que ça gêne les Ukrainiens, ça ne les déstabilise pas. Ça les gêne parce qu'ils espéraient utiliser une partie du Dniepr, cette partie qui fait 150 km, pour faire des incursions juste en face de la Crimée et obliger les Russes à garder des unités militaires importantes. Alors que, avec cette neutralisation de 150 km de ligne de front, les Russes vont surtout pouvoir renvoyer beaucoup d'unités militaires sur ce qui leur reste de front agrandi de la région de Belgorod, qui a été une très mauvaise surprise pour eux.
On va voir les cartes détaillées dans un instant avec Pauline Simonet, mais d'abord, Jean-Luc Lefebvre, une question. On a notamment cette image postée par l'un des conseillers du gouvernement ukrainien, Gerashenko, qui montre des mines. Lui accuse les Russes, qui montre des mines retrouvées à proximité. Lui accuse les Russes. Est-ce que pour vous aussi, c'est une évidence ce soir que les Russes sont derrière cette attaque contre ce barrage de Kharkovka ?
Alors écoutez, pour moi, ça me paraît... c'est jamais une évidence, mais très, très, très probable, et pour trois raisons. La première raison, on l'a déjà évoquée, c'est à qui profite le crime, vous en avez parlé en premier. La deuxième raison, c'est qui a les moyens de faire ça. Et vous l'avez très bien développé, les moyens, c'est d'avoir les explosifs en quantité suffisante pour faire sauter le barrage. Ça ne peut pas être l'effet d'un commando ou même d'une frappe aérienne. C'est un ouvrage beaucoup trop important. Et puis, la troisième question, c'est qui ment ? Les Russes disent que ce sont les Ukrainiens, les Ukrainiens disent que ce sont les Russes. Alors, les Russes, on sait qu'ils mentent sans arrêt. Et le président Zelensky, qui... a officiellement accusé les Russes de ce forfait. Vous pensez qu'il voudrait risquer son crédit auprès de ses amis occidentaux sur une affaire dont, dans quelques jours, de toute façon, on saura qui a fait ça. Donc, tout converge pour dire que ce sont les Russes les responsables.
On entendra Sergueï Zhirinov dans un instant, Paul Gogo également, mais d'abord, pour bien poser les choses aussi, et alors que l'on revoyait ces images, il faut comprendre les cartes ce soir, Pauline Simonet.
Oui, effectivement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette centrale, ce barrage, a dressé d'une infrastructure qui est stratégique et pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est un immense ouvrage, une immense infrastructure, près de 3,5 km de long, 16 mètres de haut, et c'était aussi un pont, on oublie de le répéter, c'était l'un des rares ponts qui restait encore en place pour pouvoir traverser ce fleuve Dniepr. Et puis, autre élément très important et stratégique, on va le voir sur la carte, le barrage se trouve à 150 km de la centrale de Zaporijjia et les eaux qui sont en amont de ce barrage, eh bien, ils servent notamment au système de refroidissement de cette centrale nucléaire qui est la plus importante d'Europe, même si, pour l'instant, il faut le rappeler, l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique, nous dit que tout est, pour l'instant, sous contrôle. On peut encore ajouter que ce réservoir de Kharkovka, qui est ce lac artificiel, cette retenue d'eau de 18 millions de mètres cubes, eh bien, c'est ça qui fait l'irrigation de toute une partie du sud de l'Ukraine, mais aussi... Et ça, c'est important de le rappeler, mais aussi, c'est ce qui fournit de l'eau en grande partie à la Crimée via, on le voit ici en bas, le canal de Crimée qui part donc du sud de l'Ukraine et qui traverse toute la Crimée. Donc ça risque de compliquer la situation pour les Russes, évidemment, qui contrôlent la Crimée. Et enfin, dernière dimension stratégique, c'est aussi important de le rappeler, le barrage, il se trouve sur cette ligne de front. Regardez, en rouge, vous avez la présence russe, la zone russe, et puis, qui est à l'ouest donc, à l'est, et à l'ouest, de l'autre côté, vous avez, en bleu, vous voyez le fleuve Dniepr, et bien, de l'autre côté, ce sont les Ukrainiens. Vous voyez que le barrage, il est situé au niveau de la ligne de front, et que les inondations, évidemment, elles vont couper une partie de cette ligne de front.
Sergueï Zhirinov, si les Russes l'ont fait, ça paraît complètement dingue de se dire que par intérêt militaire, parce qu'il y a un intérêt militaire, on l'a bien compris, de freiner la contre-offensive ukrainienne, ils vont risquer de couper l'approvisionnement en eau potable de la Crimée qu'ils contrôlent aujourd'hui ?
Oui, ça peut paraître complètement pas croyable, mais je vous rappelle que la Crimée a existé sans accès au Dniepr entre 2014 et 2022. C'est-à-dire que les Ukrainiens de temps en temps bloquaient cet accès lorsque ils possédaient encore accès à leur terrain et à Zaporijia et à Kherson, et donc les Russes approvisionnaient la Crimée à partir du pont de Kerch et à partir d'autres moyens, donc qui sont en liaison avec la région de Krasnodar qui est de l'autre côté de la mer d'Azov. Donc ça peut paraître pas possible, mais en réalité c'est faisable parce que les Russes l'ont déjà fait et ont existé pendant presque 8 ans avec cette situation.
Bon, Paul Gogo, il y a un intérêt militaire évident forcément pour les Russes, à vouloir aller freiner comme ça les Ukrainiens ?
A priori, il y avait en tout cas une espèce de panique un peu. On est en fin de séquence. Il y a eu Bakhmout, la fin de la bataille du Bakhmout. Mmh. On se demande tous, on attend cette contre-offensive depuis un moment, on se demande à quoi elle va ressembler. Côté russe aussi, on se demande un peu à quoi elle va ressembler. Je pense que tout le monde a étudié toutes les hypothèses. Et la Russie a visiblement estimé qu'à ce moment précis de la situation, faire sauter ce barrage pouvait avoir un intérêt pour la suite des opérations. Pour autant, par rapport à ce qu'on vient de dire, à propos de la Crimée, la question, je pense, ne s'est même pas posée, parce qu'effectivement, la Crimée, de toute façon, restait sans ses canaux irrigués pendant un bon moment ces dernières années. Le temps de remettre les turbines en route, en fait, ça a commencé seulement à refonctionner, et donc le gouverneur de Crimée commençait tout juste à mettre en place des opérations pour pousser des agriculteurs à revenir travailler en Crimée, des entreprises à reprendre pied dans la péninsule. Donc, en fait, la question s'est posée, je pense, assez rapidement pour le Kremlin. C'est quoi ? C'est des questions économiques d'un côté, des questions humanitaires de l'autre. Sauf qu'on a bien compris, et je pense que c'est souvent le cas dans une guerre, que les questions militaires et de stratégie militaire passent avant tout le monde, ça prime.
Et ce serait pas une première, d'ailleurs, dans l'histoire de la Russie, l'Union soviétique à l'époque. On se souvient qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient déjà fait sauter un barrage, c'était le barrage Lénine à l'époque, à cet endroit-là. Là, c'était pour repousser l'avancée des nazis.
Je retiens un mot de ce que vous avez dit. C'est panique. Panique, Guillaume Ancel. Il y a de la panique chez les Russes. C'est ce qui expliquerait aussi d'en arriver là, alors, à un tel extrême.
Il faut tirer un peu le fil, parce que là, en ce moment, on est tous focalisés sur ce barrage qui a des conséquences importantes. Mais en réalité, l'événement central, c'est l'offensive majeure des Ukrainiens. Or, si les Russes
déclenchent... La fameuse contre-offensive.
La fameuse. Si les Russes déclenchent cette destruction... C'est une manœuvre désespérée et désespérante, mais elle n'est pas anodine. Je veux dire, ça ne s'est pas fait tout seul et ce n'est pas un capitaine qui s'est levé le matin en disant « Tiens, je vais détruire le barrage, comme ça, ça va emmerder les Ukrainiens sur 200 kilomètres. » S'ils font ça, c'est vraisemblablement parce que l'offensive ukrainienne a commencé. Et là, pour moi, un indice qui est très révélateur, c'est que les Ukrainiens qui communiquent chaque jour sur leurs opérations militaires depuis des semaines, n'ont pas dit un mot de leur opération aujourd'hui. Ils n'ont parlé que du barrage, comme si le reste n'existait pas. C'est exactement ce qu'ils avaient annoncé pour le démarrage de cette offensive. On ne le saura que dans 2 ou 3 jours.
Et ensuite,
je pense que ça, c'est le signe, ce barrage qui a sauté aujourd'hui, d'une surréaction des Russes qui cherchent une manœuvre désespérée parce que l'offensive ukrainienne a commencé.
Ulysse.
Deux choses. D'abord, on sait que le barrage était miné par les Russes qui l'occupent. Et qui se félicitaient de l'avoir pris au début de la guerre. Ouais. Donc les Russes contrôlaient le barrage, et ce sont eux qui sont en mesure de le faire sauter facilement, puisqu'ils l'avaient déjà miné. Deuxième chose, n'oublions pas quand même que l'événement considérable qui s'est produit il y a 2 semaines, c'est-à-dire une incursion de résistants soutenus par l'Ukraine à Belgorod, en territoire russe, ça a été un défi et un affront pour Poutine. Quand on parlait de panique...
Donc là, c'est la réponse.
Alors, on se demandait, souvenez-vous, nous avions sur ce plateau le porte-parole de l'ambassade, et il disait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là, je dirais, qui se mange à l'eau du Dniepr, puisque, sans aucun doute, Poutine devait répondre. Et il a finalement tenté de reprendre l'avantage. On ne parle plus de Belgorod. On ne parle pas... L'offensive, elle est remise à plus tard, la contre-offensive ukrainienne. Donc, il reprend l'avantage... En changeant complètement la dimension de la guerre, en faisant sauter un barrage qui va avoir des conséquences non pas pour demain matin, mais pour sans doute des années. C'est-à-dire que, bon, la Crimée manquera d'eau, certainement, mais les Russes ont prévu des réserves, ils ont des réserves d'eau pour alimenter la Crimée, et puis après tout, ce n'est que quelque chose de finalement d'assez mineur dans la campagne militaire. Par contre, ils bouleversent les plans ukrainiens de contre-offensive. Et pendant des années, ces terres vont être inondées, la ville de Kherson, c'était 250 000 habitants quand même, c'est pas rien, va être inondée, les villages autour inondés, submergés. Donc vous imaginez un barrage comme ça, et quand on va découvrir ce qui s'est vraiment passé après l'explosion, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Donc ça va changer la vie de centaines de milliers d'Ukrainiens pour des années, au-delà même de l'aspect militaire à court terme. Donc pour Poutine, c'est une façon de changer la donne, en tout cas d'essayer finalement de dire, ben, vous voyez, vous m'avez provoqué, voilà ce dont je suis capable. Alors c'est aussi une forme, je dirais, je terminerai là-dessus, d'une façon assez claire de la part de la Russie, s'ils en sont arrivés à cette extrémité, alors qu'il est interdit par les conventions internationales de détruire
c'est un crime de guerre.
Voilà, et bien pour qu'ils en arrivent là, ça veut dire que d'une certaine manière, ils avaient vraiment très peur, ils étaient très inquiets de cette offensive à venir, et ils sont prêts à commettre l'irréparable, c'est-à-dire non seulement ce barrage qui explose, mais aussi les menaces que ça fait peser sur la centrale de Zaporijjia, qui pour l'instant n'est pas directement menacée, mais le barrage c'était la source de refroidissement, la source froide de la centrale. À un moment donné, ça va aussi, je dirais, déstabiliser la centrale et ceux qui l'occupent, c'est-à-dire les Russes.
On s'intéressera à cette centrale dans un instant. Je vous donne la parole, c'est promis, Jean-Luc Lefebvre, dans une seconde. D'abord, je voudrais qu'on revoie ces images, évidemment, images qui nous ont tous choqués, surpris aussi, surpris même si c'était redouté par les autorités ukrainiennes. Ces premières images tournées tôt ce matin de ce barrage de Kakhovka. On est donc dans le sud de l'Ukraine, région de Kherson, avec une explosion qui a sans doute eu lieu aux alentours de 2h50 du matin. C'est en tout cas ce que disent les autorités ukrainienne, explosion qui ont fait donc rompre, céder cet immense barrage et avec ces flots qui se sont répandus dans les villes alentours. On a une vingtaine de localités qui se sont retrouvées sous les flots, qui sont déjà sous les flots, et nos reporters le disaient tout à l'heure, reporters qui sont arrivés sur place, les reporters de BFM TV. L'eau qui a envahi une vingtaine de communes en aval avec des séries d'évacuations, comme vous voyez sur cette image, avec cette vieille dame qui est évacuée par les autorités ukrainiennes sur place. On a 17 000 personnes qui ont dû être évacuées, 40 000 qui sont menacées, et donc une eau qui se répand absolument partout avec des images absolument terribles. On voit effectivement ces autoroutes qui sont désormais inondées, totalement impraticables. Et Liste disait, c'est la vie de centaines de milliers d'habitants qui risque d'être bouleversée, encore une fois, avec ces images complètement dingues, cette maison emportée par les flots. Cette question, on le disait, qui est derrière cette attaque? Forcément, ce sont les Russes qui sont ciblés ce soir. Jean-Luc Lefebvre, je retiens encore une fois les mots qui ont été prononcés à l'instant. Panique, tentative désespérée d'empêcher ou de ralentir la contre-offensive ukrainienne. Très peur, les Russes auraient très peur de ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça qu'ils en arriveraient à commettre ce crime de guerre-là.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que stratégiquement, c'est un terrible aveu de faiblesse de la part des Russes. N'oublions pas que cette guerre est une guerre d'agression, d'invasion qui a été enclenchée par la Russie contre l'Ukraine, que la Russie avait l'intention au départ d'envahir probablement tout le territoire de l'Ukraine. Et puis, les Ukrainiens ont résisté. Les Ukrainiens ont notamment repris Kharkov. Et cette mesure de noyer toute une région sous les eaux d'un barrage, c'est une mesure défensive et irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes renoncent à refaire une offensive dans un temps raisonnable contre l'Ukraine. Donc, ils avouent être sur la défensive et tout faire pour essayer de limiter l'avancée de la contre-offensive ukrainienne qui est annoncée.
Je vois bien ce que vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, pardon pour l'expression, mais est-ce que ce n'est pas aussi un coup de maître parce qu'il fige complètement cette zone-là, Guillaume Ancel?
Non, alors attention, c'est un coup de poker. Plutôt, c'est une arme importante qu'ils ont sortie et qui est effectivement, à mon avis, la symétrie de Belgorod. À Belgorod, il faut imaginer que le principal souci des armées russes aujourd'hui, c'est qu'ils ont 1000 km de front à défendre et que l'offensive ukrainienne se passe sur un secteur sûrement très concentré. Et donc, il faut qu'ils ramassent un maximum de force alors qu'ils sont obligés de défendre 1000 km. Quand il y a eu des incursions qui venait d'Ukraine sur Belgorod, ça a rajouté plus de 200 km de front à redéfendre pour les Russes. Et ça, c'était une très mauvaise nouvelle. En faisant cette opération avec le barrage, il neutralise 200 km. Je ne l'ai pas assez expliqué tout à l'heure. Quand vous inondez une zone comme ça, pendant plusieurs jours, vous allez la transformer en marécage. Et donc là, il n'y a aucun matériel militaire qui s'est passé là-dessus. Ni les barges, ni les ponts flottants. Parce que
les Ukrainiens disent en faire, ça ne va pas nous aider.
Non, mais attendez, c'est pas vrai. C'est pas le sujet. C'est que vous ne pouvez pas passer avec du matériel militaire sur une zone de marécage. Pourquoi ? Parce que soit vous n'avez pas assez d'eau, soit vous en avez trop avec trop de courant. Et donc, ça veut dire que de toute façon, ils ne pourront plus passer, sauf avec des moyens très légers. Mais là, on parle d'incursions avec des blindés, avec de la logistique. Ils ne savent plus le faire. Par contre, je rappelle quand même qu'il reste 800 km de ligne de front plus Belgorod. Et donc, pour moi, ça ne perturbera pas les plans d'offensive ukrainienne qui sont vraisemblablement déclenchés parce qu'ils savaient depuis octobre dernier que les Russes pouvaient jouer cette carte-là. Ils ne sont pas vraiment étonnés. Et oui, eux ne sont pas bouleversés.
Surprise. C'est quand même, personne ne s'y
attendait.
Mais
c'est une mauvaise nouvelle.
Les Occidentaux ne s'y attendaient pas. C'est la surprise générale. Comment imaginer que Poutine pourrait aller jusque-là ? Eh bien oui, c'est le cynisme de Poutine. Hein. Terre brûlée, terre noyée. Et là, effectivement, vous dites, ça ne remet pas en question l'offensive. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça va tellement occuper les autorités ukrainiennes, d'abord pour sauver les populations, pour revoir les plans, etc., que ça aura un impact et ça bouleverse,
russe
ça bouleverse le calendrier.
L'eau, les inondations, là justement, du côté de Kherson, la ville est inondée, mais aussi toute cette zone sur la rive, qui est inondée.
Des deux côtés, oui.
Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une manière de protéger, entre guillemets, la Crimée aussi, puisque le front va se déplacer
Ça n'est pas faux, parce qu'il faut rappeler que c'est 150-200 km inondés. Ça correspond exactement à la partie du front qui est en face de la Crimée. Et donc, en fait, ils interdisent aux Ukrainiens de rentrer directement, s'ils avaient pu franchir, ce qui n'est pas une évidence en termes militaires, de franchir avec des moyens lourds comme ça, c'est très risqué et c'est très compliqué. D'abord, ils ont détruit le dernier pont qui existait, parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, c'était un barrage, mais c'était surtout, c'était un pont. Et que deuxièmement, en inondant et en fait en neutralisant cette zone pour plusieurs jours, parce qu'il faudra des jours avant que ça commence à sécher, ils interdisent aux Ukrainiens de venir directement en face de la Crimée. Ça n'interdit pas les Ukrainiens d'utiliser les 800 autres kilomètres de front.
Paul, comment est-ce que c'est présenté ce soir en Russie ?
Alors c'est assez amusant parce que nous, c'est une façon de voir aussi, alors on ne va pas juger la culpabilité de la Russie sur la façon dont c'est traité, mais ça en dit quand même beaucoup. Et donc généralement, vous avez ce flou, moi c'est ce que je préfère comme correspondant en Russie, cette espèce de flou dans la matinée où vous allez avoir plusieurs interlocuteurs différents, plusieurs acteurs, politiciens locaux notamment, journalistes, qui vont vous donner des versions totalement différentes de la situation. Et donc vous allez avoir d'un côté l'Ukraine qui va vous dire c'est la Russie qui a fait ça, et côté russe c'est l'Ukraine qui a fait ça de telle façon, ou alors ce sont les Américains avec un canon. Enfin, on va avoir à peu près toutes les versions. Ça, c'est dans la période durant laquelle les médias russes et les politiciens locaux, je pense aux politiciens locaux parce qu'il y a un élu qui a été placé par les Russes là-bas, qui s'est exprimé notamment ce matin, avant qu'ils soient briefés, en gros, qu'ils reçoivent leurs éléments de langage de la part du Kremlin, qu'on leur dise là maintenant, on vous explique ça à tout le monde.
Et une fois que les éléments sont arrivés, ça donne quoi ?
Une fois que les éléments sont arrivés, c'est pas un événement qui est traité de la même façon que nous dans son ampleur. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, je regardais l'annonce du jour, c'était l'armée russe avait visiblement détruit un énorme convoi de chars ukrainiens dans la région de Donetsk. Ensuite, derrière, arrivait cette information sur le barrage où ils faisaient la liste de toutes les villes, villages qui étaient concernés par tout ça. Et derrière, on passait rapidement sur
Mais quand même, Moscou veut saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'ils prennent ça au sérieux.
Ça aussi, c'est assez intéressant et presque un peu drôle, on va dire, dans le sens où la Russie, derrière, agit de la même façon que les Ukrainiens. Parce que la position de la Russie, c'est nous sommes les victimes. Mmh. Et en fait, tout ce que les Ukrainiens vont dire ou vont faire, les Russes vont dire la même chose. Parce que de leur point de vue, de leur vision des choses, ce sont les victimes, ce sont les Ukrainiens qui ont détruit ce barrage. Et donc, tout ce que les Ukrainiens vont faire, les Russes vont le faire. Alors qu'on sait très bien que ça parle à peu de monde. Je veux dire, même les pays qui soutiennent la Russie savent ce qu'il en est, savent ce qui s'est passé. Et c'est vraiment pour le geste. Et parce que les Russes, eux, doivent être convaincus que ce sont les Ukrainiens qui ont fait ça. Et je pense que beaucoup de Russes vont croire encore longtemps que cette action est une action qui a été réalisée par les Ukrainiens et que en fait les Ukrainiens ont fait un crime de guerre de plus dans Donbass et c'est une raison de plus pour la Russie d'intervenir.
Vous avez un de plus, Jean-Luc Lefebvre.
Je crois qu'on saura vite que ce sont les Russes. Et en fait, les Russes envoient.
Pardon, mais on a dit ça aussi pour le pont de Kerch, on a dit ça aussi pour le Nord Stream 2, etc. Donc. Il y a souvent un flou qui entoure quand même sur l'opération.
Bon, le pont de Kerch, à qui profitait le crime, c'était pas aux Russes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les Russes, par cet acte-là qui est un nouveau crime de guerre d'une ampleur et d'une visibilité encore plus grande que les précédents, montrent à la communauté internationale qu'ils montent d'un cran. Ce sera quoi la prochaine fois ? Ce sera la centrale de Zaporijjia et puis après ?
La centrale, on en parle dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on retrouve à nouveau nos envoyés spéciaux sur place, notamment Nicolas Coadou. Réentendre ce qu'il nous expliquait tout à l'heure, on est avec lui en direct de Kherson. L'équipe de BFM TV est arrivée sur place dans ces zones qui ont donc été noyées par l'explosion de ce barrage.
Bonsoir Maxime, eh bien je vais vous le montrer, ce qu'on voit, hein, c'est des quantités d'eau absolument affolantes. Hein. Kherson, c'est une grande ville du sud du pays qui est située en rive du Dniepr, hein, ce grand fleuve qui traverse l'Ukraine. Eh bien le fleuve est monté de 3,24 m. Eh bien regardez mes pieds, nous sommes à une soixantaine de mètres du Dniepr et pourtant l'eau continue à monter, elle a envahi toutes les rues de cette ville et pénètre même dans certaines habitations, à tel point, vous l'avez dit, que cette ville de Kherson doit être évacuée, du moins en grande partie. Certaines personnes au début de la journée pensaient que ça n'allait pas monter très vite, qu'ils n'allaient pas s'évacuer. Eh bien, ils ont très rapidement changé d'avis en voyant la montée très rapide des eaux. Ce sont d'ores et déjà 1200 personnes qui sont évacuées rien que sur cette ville de Kherson. Cette catastrophe, elle était redoutée. Elle a fini par arriver, oui, parce que ce sont au total près d'une vingtaine de localités qui sont totalement inondées par cette inondation, par cette eau qui continue de se déverser de ce barrage fracturé. Et ça devrait continuer puisque le pic de cette inondation devrait avoir lieu demain aux alentours de midi. Alors la question politique maintenant qui se pose, c'est qui est responsable de ces frappes sur ce barrage. Comme très souvent dans cette guerre, Russie et Ukraine se renvoient mutuellement la responsabilité. Selon Vladimir Poutine, c'est l'Ukraine qui a bombardé cette centrale afin de couper l'approvisionnement en eau de la Crimée. Et selon l'Ukraine, bien sûr, c'est dû à des explosifs posés par Moscou, ce qui aurait pour conséquence directe de ralentir la contre-offensive dont on entend parler depuis maintenant plusieurs semaines. En tout cas, cette question n'est pas tranchée, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau continue ici de monter, des évacuations vont se poursuivre dans les prochains jours. Il y a fort à parier que ça pourrait ralentir la contre-offensive tant annoncée par Kiev et qui devrait avoir lieu dans les prochains jours.
Nicolas, on reste avec vous à l'instant encore en direct de Kherson. Deux questions. D'abord, que vous ont dit ce soir les habitants que vous avez peut-être croisés en arrivant à Kherson ? Je sais que vous venez d'arriver, donc peut-être que c'est difficile pour vous, mais qu'est-ce que vous ressentez en termes d'atmosphère ? Et effectivement, quelle est la suite pour ces habitants ? Est-ce que tout le monde, partout, doit évacuer ? Qu'est-ce qui est prévu par les autorités ukrainiennes ?
Alors, nous venons tout juste d'arriver sur Kherson, donc nous n'avons malheureusement pas encore eu le temps de discuter avec des habitants, mais on peut les voir. D'ailleurs, vous ne les verrez, voyez probablement pas sur ces images de Gabriel Orion qui m'accompagne, mais les habitants surveillent malgré l'heure tardive. Ici, il est près de minuit, ici en Ukraine, surveillent cette eau qui monte. Il suffit d'ailleurs de la regarder pendant deux minutes, on la voit monter à vue d'œil. On peut lire l'inquiétude sur le visage des habitants, mais nous n'avons pas encore pu nous entretenir avec eux. Ces évacuations, elles ne sont pas obligatoires, elles sont simplement fortement recommandées par les autorités qui ont donc demandé à énormément de personnes d'évacuer. Mais comme vous l'avez dit, il y a au total plus de 40 000 personnes qui sont potentiellement touchées par ces inondations. Donc ça fait beaucoup de monde à évacuer. Alors certaines personnes partent par le train, mais il n'y en a pas énormément. Alors les autorités régionales de la région de Kherson ont rajouté des trains afin de proposer aux gens de pouvoir partir. Mais vous savez, cette ville de Kherson, les habitants qui restent ici, c'est des gens qui ne veulent pas partir. Cette ville, elle a été prise par les Russes, elle a été libérée depuis sa libération en septembre dernier. Elle est bombardée quasiment quotidiennement par les Russes qui finalement se situent de l'autre côté du Dniepr, à environ un kilomètre de là où nous nous trouvons avec Gabriel Orion. Donc ceux qui restent ici, ceux qui ne sont pas encore partis suite à cette inondation, c'est qu'ils veulent coûte que coûte rester dans leur domicile.
Encore une question, Nicolas. Où se trouve précisément la ligne de front, les combats, où se trouve-t-il ? Vous venez de placer, si je puis dire, sur la carte les Russes, mais où se trouvent les combats en ce moment ? À quelle distance de là où vous vous trouvez ?
Alors, les combats, ici, la ville de Kherson est ciblée très régulièrement par l'artillerie. Pour tout vous dire, regardez cette image de Gabriel Orion. Il y a cette inondation, juste derrière, à environ 70 mètres, il y a le Dniepr, hein, ce fleuve extrêmement large. À cet endroit-là, il fait environ 200 ou 300 mètres de largeur. Juste derrière, il y a des marécages et donc les positions des Russes. C'est bien pour cela qu'il y a des tirs d'artillerie absolument constants des deux côtés. Les combats, réellement, ils se situent un petit peu plus au nord, dans la région de Zaporijjia et également dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Ici, il y a peu de positions militaires ukrainiennes, simplement des tirs, oui, des Russes qui pilonnent la ville de manière extrêmement régulière, mais forcé de constater qu'avec cette inondation, ce sera forcément de plus en plus compliqué de poser des positions militaires ici. C'est bien pour cela que je vous expliquais que cette contre-offensive, si du moins il était prévu qu'elle soit menée dans cette région-là de l'Ukraine, devrait être renforcée ou du moins légèrement compromise. C'est, selon le commandement militaire ukrainien, l'objectif des Russes en ayant, c'est ce qu'ils expliquent, détruit ce barrage.
Voilà pour les explications de nos envoyés spéciaux Nicolas Coadou, Gabriel Orion et Andriy Ryabekach. Je voudrais qu'on revoie la carte que l'on voyait à l'instant où on voit bien effectivement où se situe le barrage en plein milieu de cette carte. Et 150 km en amont, on a donc, Ulysse Gosset, cette centrale nucléaire de Zaporijjia. Immédiatement, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a dit, dans l'immédiat, il n'y a pas de danger pour la centrale. Je rappelle que les réacteurs sont à l'arrêt, même si pour une centrale, il n'y a pas vraiment d'arrêt, entre guillemets, et qu'il faut toujours en permanence refroidir. Et c'est à ça que servait l'eau aussi de ce barrage, à refroidir la centrale. L'AIEA dit qu'il n'y a pas de danger dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce « dans l'immédiat » et après ?
Parce qu'en fait, l'assèchement des réserves d'eau qui permettent effectivement de continuer le refroidissement va durer un certain temps. Mmh. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas simplement l'eau du Dniepr, il y a aussi des réserves d'eau qui ont été constituées. Donc effectivement, ça donne du temps. Et c'est vrai que les réacteurs ne sont pas en fonctionnement à plein régime. On dit qu'ils sont 1000 fois moins en activité qu'au début de la guerre. Donc on a ralenti progressivement. Donc pas d'incident à attendre nucléaire dans l'immédiat, mais ça pose un problème parce qu'il faut toujours, comme vous le disiez, refroidir, refroidir, refroidir. Avec ce manque d'eau, ça va être plus difficile. Donc, à terme, ça peut provoquer des problèmes. Il faut signaler d'ailleurs que le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, va se rendre en Ukraine la semaine prochaine, Raphaël Grossi, et il va pouvoir faire une inspection. Il faut rappeler que la centrale est occupée par les Russes. Donc, ce sont eux qui contrôlent. Ça a été dit tout à l'heure très justement, si Poutine est prêt à détruire un barrage qui provoque une catastrophe sans précédent, est-ce qu'il est prêt à faire la même chose avec la centrale de Zaporijjia ? Ça reste un outil quand même à sa main. On parle toujours de la menace nucléaire, mais là on voit qu'il surprend tout le monde avec la menace du barrage. Ça y est, il l'a utilisé. Et après Zaporijjia, c'est pour ça que le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui se rend là-bas, c'est au moins la troisième fois, où il y a d'ailleurs des inspecteurs en permanence
qui sont
maintenant,
toujours là,
qui sont toujours là-bas, des Russes qui contrôlent la centrale et qui tiennent, je dirais, en main, à la laisse, si j'ose dire, les ingénieurs ukrainiens. Il se rend sur place et il pense que la situation est très sérieuse et préoccupante à la suite de l'explosion du barrage. Donc, il va falloir suivre ça parce que même s'il n'y a pas de risque d'incident nucléaire immédiat, on voit bien qu'une centrale a besoin d'être refroidie.
Évidemment. Et après Zaporijjia, pour l'interrogation, ça c'est une question pour vous, Sergueï Jernov.
Et après, personne ne sait. Personne ne sait, mais ce qu'on peut dire, c'est que, vous savez, Poutine, il nous a menacé à plusieurs reprises des choses qu'on n'a jamais prises au sérieux. Et finalement, ces choses finissent toujours par arriver. Et donc, on a parlé de la centrale de Zaporijjia et on a parlé de l'emploi de lumière. Et malheureusement, je crains que ça aussi, ça risque d'arriver tôt ou tard.
Guillaume Ancel, les limites repoussées à chaque fois. Ce barrage explosé que l'on redoutait depuis le début, on y est. Et après Zaporijjia, et après une arme nucléaire tactique.
C'est un crime de guerre et c'est une catastrophe non naturelle. Mais quand on regarde ce qu'ont fait les Russes depuis 15 mois, pardon, mais c'est le énième crime de guerre et c'est les énièmes victimes qu'ils vont commettre. Il faut avoir aussi en tête que quand on est en situation de combat comme ça, tout ce qui est attirant n'est pas important. Or, aujourd'hui, on attire notre attention uniquement sur cet événement. Ce matin, le ministère de la Défense russe déclarait, je les cite, qu'ils avaient stoppé la contre-offensive ukrainienne avec des bilans hallucinants. Ils auraient détruit 1500 soldats, 28 chars, c'est l'équivalent d'une demi-brigade. Et dans la foulée, Prigogine, le chef mafieux de Wagner, dit « Mais c'est quoi ces élucubrations ?» Donc, on voit bien que cette partie-là, c'est surtout une manœuvre de dissuasion vis-à-vis du monde pour prendre en otage les opinions internationales en disant « Regardez, si vous continuez à soutenir les Ukrainiens, regardez les catastrophes que ça va déclencher. » Et donc, il faut avoir en tête que l'événement est important, mais qu'en réalité, ce qui joue, c'est l'avenir de la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas dans cette région que ça se joue.
Donc, tactiquement, il y a quand même un coup qui est réussi par les Russes aujourd'hui, Jean-Luc Lefebvre. J'en reviens toujours à ça.
Mais un coup partiel.
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que, tactiquement, ce soit un grand gain. Parce que les Ukrainiens n'auraient pas fait leur contre-offensive en traversant le fleuve Dniepr. Ils envisagent de la faire ailleurs. Alors, il y a effectivement le fait que les Russes vont pouvoir renforcer leur défense en prenant les troupes qui étaient dans la zone inondée. Les choses véritables, moi je rejoins Guillaume Ancel, sont en train de se tramer ailleurs, et cet événement-là, c'est un événement médiatique. Tout le monde en parle pendant toute la journée, et on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, du fait que tous les projecteurs sont sur cet événement-là.
Mais en même temps,
simplement un
événement. Demain et dans les jours à venir,
C'est plus qu'un événement médiatique, c'est quand même un des plus grands barrages au monde qui explose et qui menace des centaines de milliers d'hectares.
Oui, mais c'est un fait. Il n'y a pas de raison d'en parler toute la journée.
Ça va quand même permettre aux Russes de se dégager de ce front-là, de ces 200 kilomètres-là, et d'aller positionner les forces ailleurs. Donc ça complique quand même la tâche pour les Ukrainiens, même s'ils ne vont pas renoncer sans doute à cette contre-offensive, ça les met quand même en situation, on dirait, plus difficile qu'avant l'explosion.
Et puis ça leur donne une indication
importante. Moi, je ne pense pas qu'ils sont étonnés par ça. Il devait s'y attendre.
Mais justement, c'est là qu'on a une information quand même très importante, puisqu'on s'y attend depuis longtemps. On sait que ce barrage a été miné, donc l'information qu'on a aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, Vladimir Poutine a décidé que c'était le moment d'utiliser cette arme redoutable et qui ne donne pas une très bonne image pour la Russie. Donc il y a quelque chose qui se passe en ce moment et très inquiétant pour la Russie.
D'un mot, Paul, Poutine invisible aujourd'hui.
Invisible, mais on le connaît, Vladimir Poutine. Des fois, il enregistre des séquences et des visites pour la semaine et puis il disparaît. On ne sait pas vraiment qu'il a disparu. Là, pour lui, c'est juste un fait militaire, ce qui s'est passé aujourd'hui.
Oui, enfin, les Russes disent aujourd'hui qu'il suit la situation heure par heure.
Toujours. Vladimir Poutine suit tout heure par heure.
Toutes les situations heure par heure.